France Inter.
Le journal François Chagnot, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, l'Iran qui lance une attaque sans précédent contre Israël.
Oui, Ali, c'est du jamais vu. Téhéran et ses alliés dans la région ont lancé plus de 200 drones et missiles sur le territoire israélien. Nous reviendrons sur cette nuit de bombardement avec notre correspondant en Israël. Nous irons ensuite aux États-Unis où Joe Biden s'est entretenu il y a quelques heures avec le Premier ministre israélien.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 après la présentation cette semaine du projet de loi fin de vie, entretien avec le président du Comité consultatif national d'éthique, Jean-François Delprécy. Et à 8h20, après cette attaque iranienne contre Israël, on en parlait, nous serons avec l'ancien colonel et historien militaire Michel Goya et l'eurodéputé Renew Bernard Guetta.
France Inter.
Le silence de la nuit en Israël, brisé par le son des sirènes et des explosions. Il est 21h à Jérusalem lorsque les premiers missiles et drones tueurs iraniens pénètrent dans l'espace aérien israélien. Pour la première fois, Téhéran attaque son ennemi juré directement sur son territoire. Ce matin, l'armée de l'État hébreu affirme avoir intercepté 99% des 200 projectiles, notamment grâce à l'aide des États-Unis. Elle ne signale pas de blessés, seulement quelques dégâts mineurs sur une base militaire. Promesse honnête, c'est le nom de cette opération iranienne, une riposte après le bombardement de son consulat à Damas en Syrie le 1er avril dernier, attribué à Israël. Bonjour Thibault Lefebvre, vous êtes notre correspondant
bonjour
Israël.
Bonjour François, bonjour à tous.
Israël a donc vécu une nuit d'angoisse, Thibault.
Oui, ces sirènes que vous venez de diffuser ont retenti donc une partie de la nuit sur l'intégralité du territoire israélien. Et puis il y a eu ces détonations fortes, régulières, de drones et de missiles neutralisés par la défense antiaérienne dans le ciel, des traînées de lumière et ces images qui font ce matin le tour du monde avec le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam dans la vieille ville de Jérusalem, survolée par des projectiles. Le symbole est fort, mais les dégâts sont limités et il y a ce matin peu de victimes, une fillette gravement blessée dans le sud du pays, bilan évidemment provisoire, parce que la population israélienne était préparée, elle était consciente depuis plusieurs jours de l'imminence d'une attaque de grande ampleur, et elle s'est donc protégée dans des abris aménagés.
Et donc attaque d'une grande ampleur, Thibault, parce que plus de 200 projectiles ont été envoyés cette nuit sur Israël.
Oui, 300 projectiles en tout, 200, les deux tiers en provenance du territoire iranien. Dans le détail, 170 drones kamikazes, 30 missiles de croisière, 120 missiles sol-sol. La source, c'est l'armée israélienne, avec un taux d'interception exceptionnel de 99%. Vous l'avez dit, selon le porte-parole de l'armée, Daniel Agari. Il s'est exprimé il y a une demi-heure et il a précisé que l'objectif de ces frappes était la base militaire de Nevatim. C'est au sud du pays, pas très loin de la grande ville de Beersheva, et pas très loin non plus de la ville de Dimona, où Israël a développé son programme nucléaire.
Merci Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter en Israël. On vous retrouve dans le journal de 8h. Cette attaque sans précédent met les dirigeants du monde en état d'alerte. Et en premier lieu, le président américain Joe Biden s'est entretenu avec le Premier ministre israélien tôt ce matin. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour François.
Vous êtes le correspondant de France Inter à New York. Joe Biden assure Israël de son soutien inébranlable.
Oui, un Joe Biden revenu en urgence de son week-end pour suivre la situation et consulter son équipe de sécurité nationale. Des photos du président ont d'ailleurs circulé. On connaît la mise en scène dans son rôle de chef des armées installé dans la fameuse Situation Room de la Maison-Blanche avec tout son état-major. Joe Biden a discuté effectivement avec Benjamin Netanyahou pour lui redire que les États-Unis aideraient Israël à se défendre. Les Américains ont d'ailleurs détruit des dizaines de drones iraniens et plusieurs missiles. Le message lui reste le même, celui que vous évoquiez, un soutien inébranlable. Alors avec deux nuances, peut-être Washington demande d'abord à son allié de le prévenir de sa future réponse. Les États-Unis ont été pris de court par l'attaque israélienne du 1er avril contre le consulat iranien à Damas. La seconde, c'est que les Américains, sans grande surprise, ne participeront pas à la riposte d'Israël, quelle qu'elle soit, histoire de ne pas être aspirés dans ce conflit. Joe Biden, en revanche, active ses leviers diplomatiques avec la convocation dès aujourd'hui d'une réunion du G7. Sachez que le Conseil de sécurité se réunira lui aussi dans l'après-midi, ici à New York.
Merci Loïc Loury, correspondant de France Inter à New York. L'Union européenne condamne fermement cette attaque qu'elle décrit, je cite, comme étant inacceptable. Et de son côté, la République islamique appelle les États-Unis à rester en dehors de ce conflit et considère l'affaire comme close, mais promet une réponse considérablement plus sévère en cas de riposte israélienne. Et c'est en effet fait ce qui pourrait causer une escalade régionale. C'est l'analyse du général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
Il faut souhaiter qu'en fait, ça soit un tir en quelque sorte unique, hein, histoire pour Téhéran de dire que il venge en quelque sorte l'attaque du 1er avril contre le consulat qui était à Damas. Parce que si c'est l'autre hypothèse, eh bien là, on rentre dans une escalade qui ne serait plus maîtrisable. Parce que en fait, les Mollahs savent très bien que le rapport de force ne leur est pas favorable. Donc, ça permet pour Téhéran d'envoyer un message à sa propre opinion publique, qui est très nationaliste, en disant, vous voyez, nous avons vengé les morts de Damas. Bon, si c'est que ça, on aura chaud, mais c'est maîtrisable. Si derrière, il y a d'autres frappes, là, ça devient beaucoup plus dangereux parce que de toute façon, Israël répliquera.
Les prochaines heures seront décisives et elles seront à suivre, évidemment, sur notre antenne.
Les vacances scolaires se poursuivent pour les enfants de la zone C et commencent tout juste pour ceux de la zone A. C'est aussi la dernière chance de souffler pour les maires des villes qui accueilleront des épreuves ou des sites des Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Ils se préparent depuis des années. Les derniers mois ont été intenses. Alors il est temps pour eux de faire une pause avant la dernière ligne droite à Ajra Mohammad.
Quelques jours au bord de la mer, sur la côte atlantique, c'est le programme des vacances pour le maire de Versailles, François de Mazières.
Ça va être du vélo, ça va être beaucoup de lecture, avoir un peu plus de temps, mais en même temps, on ne coupe pas totalement.
Impossible, avec 13 épreuves olympiques et paralympiques organisées dans sa ville et au château. Alors le téléphone et l'ordinateur ne sont jamais très loin.
Je pense que j'aurai malheureusement quelques coups de fil. Il y en a déjà qui sont prévus, même des réunions par visio. Mais bon, au moins, on prend un peu l'air.
Une petite pause aussi pour Quentin Gézel, maire de Duny en Seine-Saint-Denis, avec son village des médias. 1500 journalistes attendus. L'élu enchaîne les rendez-vous.
Ça a été beaucoup de réunions de chantier, d'arbitrage à prendre. Après, on a enchaîné pas mal de visites aussi de presse, de journalistes. Depuis 4 ans, moi, je ne vois pas les journées passer.
Et c'est sans compter les affaires courantes.
On a la rénovation d'une école, on a la rénovation de certaines voiries, le lancement d'un nouveau marché forain. Donc tout cela cumulé fait que l'emploi du temps est bien chargé.
Et comme les athlètes dans la dernière ligne droite, il faut savoir gérer la pression.
Parce que, comme on le dit toujours, c'est une fois dans une vie. Je pense que la passion, l'adrénaline font que ça nous motive beaucoup et on tient. Après, il faut savoir s'imposer aussi du temps pour soi, pour ses proches.
Des proches que ces élus pourront retrouver pour de vraies et longues vacances, plutôt fin septembre, une fois l'aventure olympique terminée.
Pas de répit non plus pour les joueuses de l'équipe de France de rugby. Elles affrontent leur rivale italienne cet après-midi pour le troisième match du tournoi des Six Nations. Les sixièmes mondiales promettent d'être des adversaires plus coriaces que les Irlandaises et les Écossaises battues au tour précédent. Mais les Françaises peuvent compter cet après-midi sur un atout de taille, leur nouvelle capitaine Manei Feleu, Fanny Lechevestrier.
Manei Feleu, capitaine des Bleus pour ce tournoi des Six Nations, a seulement 24 ans et avec 14 sélections au compteur, c'est déjà assez rare. Mais ce n'est pas là sa seule singularité, vous allez le comprendre, en écoutant la demi-mêlée des Bleus, Pauline Bourdon-Sensus.
Je t'avoue que ses compétences en médecine, je ne sais pas trop si ça nous sert sur le terrain. Mais en tout cas, c'est une fille qui est très intelligente et ça se voit sur son jeu comme dans sa vie de tous les jours.
Et oui, la deuxième ligne, originaire de Wallis et Futuna, est aussi étudiante en cinquième année de médecine à l'université de Grenoble. C'est d'ailleurs d'abord pour les études, explique Manaé, qu'elle avait rejoint la métropole à l'âge de 17 ans.
Et je trouve que c'est un peu un équilibre, parce que si je faisais que du rugby, je pense que ça me saoulerait à la longue, et si je faisais que de la médecine aussi.
Et perfectionniste, elle excelle aujourd'hui sur les deux tableaux pour un parcours qui n'étonne plus personne, en tout cas pas sa coéquipière à Grenoble et en équipe de France, Emeline Gros.
Là, ce truc, ce leadership, et je suis très fière de pouvoir la voir évoluer dans cette nouvelle casquette. C'est un statut qui lui va bien, qui lui permet aussi de grandir, que ce soit dans le rugby ou en tant que femme.
Et elle grandira sans doute encore un peu plus tout à l'heure quand elle se retrouvera sur le terrain aux côtés de sa petite sœur Théanie, appelée pour la première fois en sélection.
À France-Italie, coup d'envoi à 13h30.
C'était le journal de François Chagnot. On prend le large dans un instant avec un zoom sur ces cargos qui adoptent la voile pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.